Jean-Marie Cavada, bonjour. Vous venez parler à des Français juifs, comme vous dites, à l'invitation du CRIF Marseille-Provence, dans ce qu'on peut appeler une soirée électorale, en leur parlant des valeurs. Pourquoi ?
Tous les exilés qui sont devenus Français dans cette région, ce sont des gens qui transportent à la fois des malheurs qu'ils ont subis, des espoirs énormes qu'ils ont formés pour l'avenir et qui leur permettaient d'avoir la force de vivre. Et puis aussi, je dirais, une mémoire. Et la mémoire, elle est extrêmement importante dans la séquence que nous vivons actuellement, parce que nous sommes à une fracture, rupture de la société française, la troisième depuis la Deuxième Guerre mondiale, 45-58, voici la troisième. Et que la mémoire de ce qu'ont vécu ces communautés montre qu'avec du courage, on arrive à transformer un pays ou une société et naturellement à s'y installer, s'y intégrer et dessiner son avenir. Les conditions sont assez simples. La loi française a besoin de républicains de quelque confession que ce soit. La laïcité, qui est la religion des religions, garantit le libre exercice de tous les autres. Deuxièmement, c'est un pays où les libertés sont protégées. Troisièmement, c'est un pays qui a produit beaucoup de richesses économiques, pas toujours bien partagées, mais qui, en tout cas, a besoin aujourd'hui de redevenir une ambition économique pour faire baisser le chômage, qui est une des causes de la montée du Front National, et puis traiter la question de l'immigration, non pas en jetant tout le monde à la mer, comme ces gens sottement le disent, le prétendent, parce qu'ils ne le feront pas, comme le reste de leur programme, ils ne le feraient pas. Eh bien, il faut que vous vous saisissiez de votre citoyenneté, vous preniez un bulletin de vote, vous vous dirigez vers des gens raisonnables et pas vers des excités. Ils vous promettent la sécurité. Ils fabriqueront l'insécurité. En revanche, si les citoyens de cette communauté participent activement à la recréation de ce pays, bien évidemment, ils auront amené des morceaux d'avenir pour leur famille et pour le pays. Par conséquent, ces valeurs, c'est fondamental. On ne le voit pas parce que ça se passe sous nos pieds. Mais c'est quand même la même histoire qui se représente.
Toujours pour rester sur le plan politique, on voit bien les mélenchonistes qui, dans le Nini, on voit bien aussi les républicains qui disent « nous, on pense à la cohabitation ». Qu'est-ce que c'est que faire de la politique comme ça ?
Je pense que dans cette circonstance actuelle, il faut souhaiter que le président de la République qui sera élu puisse avoir, comme Mitterrand en 81 ou comme De Gaulle en 58, la majorité dont il a besoin pour appliquer son programme et ne pas décevoir les électeurs. Et que dans ces conditions, faire de la résistance passive en essayant de lui imposer une cohabitation est assez peu républicain de mon point de vue. Il y a certes l'intérêt des partis, mais je mets la grandeur de la France et son avenir au-dessus de l'intérêt des partis. De Gaulle l'a prouvé, ces gens qui se prétendent gaullistes, qu'ils soient à droite ou qu'ils soient à l'extrême gauche, car tout qui n'est pas gaulliste aujourd'hui, devrait s'inspirer de ces leçons pour savoir qu'un peu de modestie activiste serait nécessaire pour avoir de la grandeur et s'incliner devant cette nécessité de se regrouper pour le bien de la nation.
Vous êtes très proche d'Emmanuel Macron, vous êtes en quelque sorte un de ses conseillers. Parmi les réformes qu'il propose, vous en avez cité plusieurs, on en a entendu plusieurs, mais j'aimerais qu'on revienne sur celles qui concernent le syndicalisme en France.
Alors je crois que parmi les 6 chantiers prioritaires qu'il a décrits dans son programme et qu'il faut reconsulter, eh bien il y a tout l'ensemble économique et social. C'est un tout, il n'y a pas le syndicalisme d'un côté et la production de la richesse de l'autre. Dans un pays, produire de la richesse, c'est donner les moyens de la répartir à usage général des collectivités ou à usage individuel, et notamment vers ceux qui sont les plus pauvres, les plus modestes. Et nous avons besoin, dans un pays qui n'a que 7,4% de salariés, d'un système de relations sociales où les salariés se syndiquent beaucoup plus massivement pour participer à l'organisation du travail, comme c'est le cas en Allemagne, au Danemark ou en Suède. Et je suis donc partisan qu'on assouplisse un certain nombre de règles, ce qui ne veut pas dire du tout, contrairement à ce que la propagande d'extrême-gauche ou de gauche énervée fait croire, qu'on va maltraiter les salariés, qu'on va ne plus indemniser le chômage et qu'on va jeter tout le monde dans la rue. Non, mais ce syndicalisme des années 30, quand il y avait la sidérurgie, la construction navale, le charbon et l'acier et le textile, c'est plus du tout aujourd'hui l'économie. Il y a seulement 17% de la richesse nationale qui est produite par l'industrie aujourd'hui. Par conséquent, les relations sociales doivent être modernisées de façon à ce que les salariés aient aussi une voix au chapitre, mais qu'ils soient les patrons des centrales syndicales et pas l'inverse, pas que les centrales syndicales soient les patrons des salariés.
C'est le sens justement de rendre le code du travail au niveau des entreprises, au niveau des branches.
Bien entendu, parce que c'est le lieu exact de la communauté humaine du travail, une branche et même une entreprise. Nous sommes partisans que le plus souvent possible, ce soit dans l'entreprise que se gèrent les relations sociales, dans un cadre qui sera certes défini, mais que les contrats se négocient et s'exécutent dans l'entreprise. Et quand ce n'est pas possible, dans les branches. Mais on voit bien que, vous savez, il faut réfléchir très simplement. Investir, produire, c'est le fruit de deux choses. L'investissement du capital, l'argent. Et puis l'investissement des salariés, le savoir-faire. Et que les deux doivent travailler ensemble pour l'avenir de leur entreprise et de leur métier. Et favoriser naturellement l'accroissement des carnets de commandes, parce que quand il y a des carnets de commandes, il y a de l'embauche.
Alors, dernière question, nous sommes ici à Marseille, il y a une métropole ex-Marseille-Provence qui est en construction, il y a eu beaucoup de refus, ça avance petit à petit. Est-ce qu'avec Emmanuel Macron, tout restera encore à Paris ?
Alors, je ne parle pas des difficultés qu'il y a eu pour la communauté dont vous parlez, mais Emmanuel Macron est un homme avec qui je suis d'accord. Nous avons un vrai accord, hein, c'est très intéressant ça, pour la décentralisation, pour déjacobiniser au maximum l'État français qui est engorgé, suradministré, et qui fait que les citoyens se sentent vraiment tellement loin des lieux de pouvoir pour résoudre leurs problèmes personnels qu'ils en désespèrent. Tout ce qui peut être fait dans les communautés de communes, les agglomérations, bref, ces ensembles doit être fait là. Tout ce qui ne peut pas être fait là doit être fait à la région. Tout ce que la région ne peut pas faire toute seule, c'est l'État qui doit s'en charger.